Chapitre 6. Richard courut vers la clairière où attendaient les hommes de Victor. Les hurlements venaient de là et il n'y avait pas de temps à perdre. Alors que les arbres et les buissons défilaient à une incroyable vitesse sur ses flancs, le sourcier sauta par-dessus un tronc abattu, puis enchaîna un deuxième bond qui lui épargna la peine de contourner un assez gros rocher. Il slaloma entre les troncs d'une série de jeunes pins, traversa un bosquet de cornouillers, écarta des branches de sapin, puis se baissa pour passer sous celle d'un grand pin. Tandis qu'il courait, les branches mortes de jeunes épicéas s'accrochaient à ses vêtements comme si elles voulaient le retenir. 10 fois plutôt qu'une, il faillit trébucher sur les racines affleurantes de plus grands arbres, mais il réussit à les éviter au dernier moment. Courir ainsi dans une forêt très dense, surtout sous la pluie, était dangereux. Avec la bruine, on distinguait le danger au dernier moment, et certaines grosses branches pointues pouvaient aisément crever un œil. Et quand on glissait sur des feuilles mortes ou sur une pierre, un peu de malchance suffisait à transformer un vol plané comique en chute mortelle. Mettre le pied dans une crevasse était un moyen radical de se casser une jambe. Dans sa jeunesse, Richard avait connu un garçon qui s'était étalé ainsi dans la forêt. Les os de sa jambe et de sa cheville ne s'étaient jamais bien ressoudés et il avait dû se résigner à boiter jusqu'à la fin de ses jours. Même s'il savait tout cela, Richard n'osait pas ralentir. Depuis qu'il courait, il entendait les atroces cris et de sinistres bruits d'os qui se brisent. Derrière lui, Kara, Victor et Nietzsche tentaient de le suivre, mais ils étaient irrémédiablement distancés et il n'avait aucune intention de les attendre. Le souffle de plus en plus court, un problème qu'il n'avait jamais eu après un effort si bref, Richard se demanda ce qui lui arrivait. Puis il se souvint de ce que lui avait dit Nietzsche. Après une hémorragie importante, il lui faudrait beaucoup de repos pour reprendre ses forces. Eh bien, il allait faire avec celle qu'il avait parce qu'il n'était pas question de renoncer. De toute façon, il n'était plus très loin. Les frères d'armes qui étaient venus à son secours quelques jours plus tôt avaient maintenant besoin d'aide. Sans savoir ce qui se passait exactement, Richard était sûr qu'ils étaient dans de sales draps. Le matin de l'attaque, avant l'arrivée de Victor et de ses hommes, Richard aurait pu vaincre seul les soldats de l'ordre, à condition de mieux maîtriser son don. S'il avait pu recourir à la magie, 3 braves n'auraient pas péri durant l'affrontement. Bien sûr, si Richard n'avait pas été là, Victor et les autres auraient sans doute été égorgés dans leur sommeil, mais ça ne changeait rien. La mort de 3 combattants pesait sur sa conscience. Afin qu'il n'y ait plus de victimes, il courait aujourd'hui sans se soucier de sa santé. Il finirait bien par se rétablir, même si ça mettrait peut-être un peu plus longtemps que prévu. En revanche, une vie perdue l'était à tout jamais. À des moments pareils, il regrettait vraiment de ne pas être un sorcier plus compétent. Hélas, son don n'en faisait qu'à sa tête. Au lieu d'obéir à sa volonté, comme le pouvoir de Nietzsche, il répondait uniquement à la colère et aux besoins du sourcier. Lorsqu'il avait dégainé son arme ce matin-là, Richard luttait d'abord pour sauver sa propre vie. Son désir de survivre s'était communiqué à l'épée de vérité, éveillant sa magie, une force indépendante de son don sur laquelle il pouvait compter à tout moment. La plupart des détenteurs du don apprenaient dès l'enfance à le contrôler. Richard n'avait pas eu de formation. En grande partie grâce à Zed, il avait vécu une enfance et une jeunesse protégées qui lui avaient laissé tout le temps de découvrir la vie et de l'aimer. Comme toujours, la rose avait des épines. Manquant de connaissances et de pratiques, Richard était un sorcier certes doué, mais totalement étranger à son propre talent. Aujourd'hui, rattraper son retard n'était pas si facile que ça. En partie parce qu'il avait une guerre sur les bras, mais ce n'était pas tout. La nature même de son pouvoir, extraordinairement rare, contrariait tous les efforts de Zed et des Sœurs de la Lumière. Malgré toute leur sagesse et leurs compétences, le vieux sorcier et les magiciennes de l'Ancien Monde ne parvenaient pas à aider Richard à maîtriser consciemment sa magie. Selon Nathan Rall, le prophète, la clé de tout était la colère et le besoin. Mais ces 2 notions demeuraient très vagues dans l'esprit de Richard. Une chose était sûre, toutes les formes de colère ou de besoin ne suffisaient pas à éveiller son pouvoir. Mais comment faire la distinction ? Jusqu'à ce jour, c'était impossible puisque le déclencheur était différent dans toutes les occasions où il avait eu accès à ses pouvoirs. Richard avait quand même déterminé que la magie restait insensible à ses coups de tête ou à ses caprices. Pour que quelque chose se passe, il ne suffisait pas qu'il ait une envie ou une contrariété. L'éveil du pouvoir et sa mise en action dépendaient de conditions bien spécifiques. L'ennui, c'était de savoir lesquelles et d'être capable de les reproduire. Quand il lançait un sort, même les plus grands sorciers avaient parfois besoin du soutien d'un livre pour être sûr de faire ce qu'il fallait. Dans son enfance, Richard avait mémorisé un de ses ouvrages, Le Grimoire des ombres recensées. Le livre que Darkenral voulait se procurer afin de mettre dans le jeu les boîtes d'Orden. Le matin de la disparition de Callan, face aux soldats de l'ordre, Richard avait reçu l'aide de l'épée, mais pour vaincre, il s'était reposé sur ses qualités de guerrier, pas sur sa magie. Le long combat l'avait conduit au bord de l'épuisement. Son inquiétude pour Callan n'avait sans doute rien arrangé, car la déconcentration était toujours une source de fatigue. Combattre en ayant en quelque sorte l'esprit ailleurs était absurde et dangereux, mais quand il s'agissait de Callan, rien ne pouvait être plus important. Pendant la bataille, la magie du sorcier s'était éveillée plusieurs fois indépendamment de sa volonté. Sans cela, il aurait succombé sous les volées de projectiles qui s'étaient abattus sur lui. Hélas, la magie n'avait pas réagi quand un arbalétrier l'avait pris pour cible. Voyant trop tard que le carreau menaçait de lui transpercer le cœur, Richard avait seulement pu le dévier. S'il n'avait pas dû repousser trois brutes assoiffées de sang, il aurait sûrement pu arrêter le projectile grâce à la magie que lui conférait son épée. Chaque fois qu'il repensait à cette bataille, des « si » et des « mais » tourbillonnaient dans sa tête. L'idée qu'il n'avait pas été totalement à la hauteur continuait à le hanter. Pourtant, comme l'avait dit Nietzsche, il n'était pas invincible, ni infaillible, avait-il envie d'ajouter. Soudain, un lourd silence tomba sur la forêt. Les cris s'étaient tus, et on n'entendait plus que le petit bruit régulier des gouttes de pluie qui s'écrasaient sur le feuillage des arbres et sur le sol. Troublé par la quiétude pourtant réconfortante de la nature, Richard se demanda si les horribles sons qu'il avait entendus n'étaient pas le fruit de son imagination. Malgré ses doutes et sa fatigue, il ne ralentit pas. Tendant l'oreille, il ne capta aucun signe de vie des hommes de Victor. Derrière lui, très loin, des craquements lui signalaient que ses trois compagnons le suivaient toujours, mais il perdait sans cesse du terrain. Pour une mystérieuse raison, le silence surnaturel était plus angoissant encore que les cris. Ce que Richard avait d'abord pris pour des hurlements de corbeaux, des croassements de douleur pour être précis, s'était rapidement transformé en sons produits par des gorges humaines. Mais n'était-ce pas sur ce point justement que l'imagination du sorcier lui avait joué des tours? S'il s'était agi de cris d'animaux du début à la fin, cette course à travers les bois n'avait aucun sens. Mais dans ce cas, pourquoi le silence actuel glaçait-il les sangs de Richard? Il en avait même la chair de poule. Voyant qu'il approchait de la clairière, il dégaina son épée. La note métallique reconnaissable entre toutes eut le mérite de faire voler en éclats ce silence oppressant. Aussitôt, la colère de l'arme se déversa en Richard et éveilla la sienne. Comme à l'accoutumée, il s'abandonna sans retenue à une magie qu'il connaissait et qui ne lui avait jamais fait défaut. Exalté par le pouvoir de sa lame, il n'avait plus qu'une idée, identifier la menace et l'éliminer. Par le passé, la peur et l'incertitude l'avaient poussé à se méfier de la tempête qu'une épée forgée par un antique sorcier déchaînait en lui. À cette époque-là, il répugnait à lâcher la bonde à sa propre colère. Mais ses temps étaient révolus. Désormais, il ne résistait plus face au juste courroux de l'arme et il avait appris à en tirer parti. Ce pouvoir-là n'échappait plus vraiment à son contrôle. Au fil des siècles, des imposteurs, motivés par la soif de pouvoir et la cupidité, avaient manié l'arme en ignorant volontairement les risques auxquels ils s'exposaient. Au lieu de contrôler la magie, ces hommes et ces femmes étaient devenus les serviteurs de l'arme, les esclaves de sa colère et ultimement les proies de leur propre voracité. S'ils avaient fait le mal, ce n'était pas la faute de l'épée, car l'outil ne devait jamais être tenu pour responsable des méfaits commis par celui qui le maniait. Après avoir traversé un dernier rideau de broussailles, Richard s'immobilisa à la lisière de la zone où il avait tué tant de soudards de l'ordre 3 jours plus tôt. Épée au poing, il inspira à plein poumon malgré la puanteur. Au début, il eut du mal à trouver un sens à ce qu'il voyait. Il y avait des corbeaux morts partout, ou plutôt des cadavres taillés en pièces. Des ailes, des têtes et des fragments de corps jonchaient le sol, et un linceul de plumes noires recouvrait les dépouilles des soldats de l'ordre. Si terrifiant que fût ce spectacle, ce n'était pas pour ça que Richard était venu au pas de course. Traversant le charnier, il repassa le rideau de broussailles et continua son chemin vers l'endroit où attendaient les hommes. La colère de l'épée lui fit oublier sa fatigue, ses difficultés à reprendre son souffle et sa faiblesse de convalescent. Elle le préparait au combat à venir, et tout ce qui comptait pour lui était désormais d'atteindre les hommes de Victor, ou plus exactement d'affronter ceux qui les menaçaient. Tuer les serviteurs du mal était une incomparable source d'ivresse spirituelle. Quand on ne combattait pas les méchants, on les cautionnait. Du coup, les éliminer devenait une manière d'honorer la vie et de reconnaître sa valeur, car cela revenait à détruire des prédateurs qui existaient uniquement pour dénier aux autres leur droit à la vie. C'était pour ça, fondamentalement, que l'épée de vérité déversait sa colère dans le sourcier et exigeait qu'il y réponde par sa propre fureur. La rage occultait l'horreur de la violence et chassait le dégoût naturel qu'un être humain éprouvait face au meurtre. Lorsque la métamorphose était accomplie, il ne restait plus que la nécessité de frapper sans pitié afin qu'il y ait une véritable justice. Quand Richard sortit du bosquet de bouleaux, son attention fut immédiatement attirée par l'érable sous lequel s'étaient massés les hommes de Victor. Les branches les plus basses ne portaient plus une feuille, comme si une tempête les en avait dépouillés. Alentour, les arbustes et les buissons n'étaient plus que des masses végétales déchiquetées. Les plus gros arbres avaient été déracinés ou brisés en deux comme de vulgaires brindilles. Au pied de l'érable, sur un assez grand périmètre, le sol de la forêt, jusque-là de toutes les nuances imaginables de vert, avait été remplacé par un étrange tapis rouge sang. Le cœur battant à tout rompre, Richard tenta de projeter sa colère sur une menace qu'il ne parvenait pas à identifier. Il sonda la forêt de tous les côtés et ne repéra aucun mouvement. En même temps, il essaya de déterminer ce qu'était ce qu'il avait d'instinct appelé un tapis rouge. Prêt au combat, Kara s'immobilisa sur le flanc gauche de son seigneur. Quelques instants plus tard, sa masse d'armes au poing, Victor vint se camper sur son flanc droit. Nietzsche suivait le forgeron de peu. Elle ne portait pas d'armes, mais Richard sentit que l'air autour d'elle crépitait de pouvoir prêt à se déchaîner sur une cible. « Par les esprits du bien !» murmura Victor. Levant sa masse d'armes hérissée de 6 lames, un objet mortel forgé de ses mains, il avança prudemment. Richard lui barra le chemin avec son épée tenue horizontalement. Quand sa poitrine se pressa contre le tranchant de la lame, Victor consentit à contre-cœur à s'arrêter. La scène, tout d'abord déconcertante, devint sinistrement claire pour le sourcier et ses compagnons. Au pied de Richard, sur un lit de fougère, gisait l'avant-bras d'un homme. La main manquait, mais il restait encore la manche de chemise en flanelle foncée. Un peu plus loin, une botte reposait bien droite sur le sol vermillon. Rien d'extraordinaire n'était le tibia délesté de sa chair et de ses tendons qui en jaillissait comme une fine colonne. Sur le côté, dans un buisson, une moitié de torse exposait à tous les regards ses côtes dénudées et une partie de sa colonne vertébrale. Sur le tronc où s'étaient assis les combattants, des viscères encore fumants s'étiraient en lambeaux visqueux qui glissaient lentement vers le sol. Des fragments de cuir chevelu, de peau et de matière cérébrale s'accrochait aux rochers, aux buissons et aux branches des arbres environnants. Quelle noire magie pouvait être la cause d'un tel massacre? Se demanda Richard. Une réponse lui venant aussitôt à l'esprit, il se tourna vers Nietzsche et demanda « L'œuvre de Sœur de l'Obscurité ?»« Il y a quelques similitudes, c'est vrai, mais elle ne tue pas ainsi. » Le sourcier se demanda si cette nouvelle était si réconfortante que ça. Très lentement, il avança au milieu du carnage. À première vue, il n'y avait même pas eu de bataille, car les dépouilles désarticulées ne portaient aucune plaie qui aurait pu être infligée par une épée ou une hache. De plus, on ne voyait ni flèche ni lance sur tout le périmètre. Les lambeaux de chair ne paraissaient pas avoir été coupés, mais arrachés à leur propriétaire, comme si leur corps avait explosé. Ce second charnier était si horrible et incompréhensible qu'on oubliait vite jusqu'à sa révulsion. Quand il tenta d'imaginer ce qui avait pu déchiqueter ainsi des êtres humains et la nature qui les entourait, Richard ne parvint pas à formuler une hypothèse cohérente. Sous la colère que suscitait en lui la magie de l'épée, il éprouvait une insondable tristesse à l'idée d'avoir été incapable d'empêcher cette abomination. Ce remords le hanterait longtemps, il le savait, mais pour l'instant, il voulait surtout tailler en pièces le responsable de ce massacre. « Richard, » dit Nietzsche dans le dos du sourcier, « je crois que nous ne devrions pas traîner ici. » Le ton calme et posé de l'ancienne maîtresse de la mort était plus lourd de sens que les cris d'alarme d'une personne moins habituée aux ignominies des batailles. La colère de l'épée se combinant à sa propre fureur indignée, Richard ignora cet avertissement. S'il restait un survivant, il devait le trouver. « Personne ne s'en est tiré, » souffla Nietzsche comme si elle avait lu dans les pensées de son ami. S'il y avait toujours un danger, Richard devait le savoir.
« Qui a fait ça ?»
demanda soudain Victor. À l'évidence, il n'avait aucune intention de quitter les lieux avant d'avoir mis la main sur les coupables.
« Pas un être humain, selon moi, » répondit Kara.
Alors qu'il avançait sur le tapis sanglant, Richard sentait le silence peser comme une chape de plomb sur ses épaules. On n'entendait pas un chant d'oiseau, un bourdonnement d'insectes ou un couinement d'écureuil. Loin de troubler le silence, le bruit régulier de la pluie lui composait une sorte d'écrin afin de le mettre davantage en valeur. Du sang gouttait des feuilles, de la pointe des branches et du haut des buissons à demi déracinés. Des humeurs rougeâtres dégoulinaient le long de l'écorce rugueuse d'un frêne, et une main aux doigts ouverts, projetée à des dizaines de pas de là, gisait maintenant au pied d'un petit tertre. Richard repéra les empreintes qu'avait laissées la colonne en arrivant dans la clairière, puis sa propre piste et celle de ses trois compagnons. Il n'y avait pas de traces de bottes dans toute la zone dévastée, même si le sol, à certains endroits, était zébré de mystérieuses et profondes balafres qui se prolongeaient parfois jusque dans les racines mises à nu des arbres. En y regardant mieux, Richard comprit que ces crevasses correspondaient aux endroits où les hommes avaient été violemment projetés sur le sol. Dans plusieurs cas, de la chair s'accrochait aux pointes des racines arrachées de terre. Kara referma les doigts sur l'épaule du sourcier, froissant sa chemise, et souffla.
« Seigneur Hall, je veux que vous partiez d'ici. »«
Tiens-toi tranquille, » répondit Richard avant de se dégager sans douceur. Alors qu'il avançait, les innombrables voix des anciens détenteurs de l'épée de vérité murmurèrent quelque part dans un recoin de son esprit.
« Ne te concentre pas sur ce que tu vois, ce qui est déjà fait. Intéresse-toi au coupable de ce massacre, qui pourrait bien être toujours là ou revenir. L'heure est à la vigilance. »
Richard n'avait nul besoin de tels conseils. Serrant si fort son arme qu'il sentait les lettres du mot « vérité » s'enfoncer dans sa paume, il était attentif et tendu comme un chasseur sur la piste fraîche d'une proie. Baissant les yeux, il vit la tête coupée d'un homme au milieu d'un buisson écrabouillé. La bouche ouverte sur un cri qu'il n'avait jamais pu pousser, le malheureux était mort dans une indicible terreur.
Richard connaissait ce combattant. Il se souvenait même de son nom. Nourri. Tout ce que ce jeune brave avait appris, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il prévoyait de faire, tout ça était fini à jamais. Il en allait ainsi pour tous les hommes de Victor. On leur avait volé l'unique vie qu'il leur était donné d'avoir. La violence du chagrin qu'éprouvait Richard menaçait d'étouffer la colère que lui communiquait l'arme. Tous ces hommes avaient une famille et des amis qui guettaient leur retour. Quand ils sauraient qu'il n'y avait plus rien à attendre, ces êtres aimants et tendres auraient le cœur brisé. Conscient que ce n'était pas le moment de pleurer les morts, Richard se força à revenir au présent. Il était là pour trouver les coupables et les punir avant qu'ils puissent tuer d'autres innocents. Une fois sa mission accomplie, il aurait le droit de s'abandonner à la mélancolie. Le sourcier fouilla toute la zone et ne trouva pas un seul cadavre entier. Il y avait des fragments de corps partout, y compris dans la forêt, comme si quelques hommes avaient tenté de s'enfuir, mais aucun n'était allé bien loin. S'il était facile de repérer la piste des malheureux qui avaient essayé d'échapper à leur sort, on ne voyait pas une trace de leurs éventuels poursuivants. À l'entrée de la forêt, après avoir contourné un grand pin, Richard découvrit le torse sans bras d'un homme accroché à l'envers à une branche brisée. Le morceau de cadavre pendait bien au-dessus de la tête du sourcier et il était empalé sur la branche comme un quartier de viande suspendu à un croc de boucher. Le visage du mort exprimait une terreur sans nom. Sa tête étant à l'envers, du sang dégoulinait de ses cheveux pour venir s'écraser sur un lit de feuilles mortes et d'aiguilles de pin.
« Par les esprits du bien !»
s'écria Victor, fou de rage.
« C'est Ferrand !»
Richard sonda les alentours mais ne capta aucun mouvement dans la pénombre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de survivants. Au pied de l'arbre, nota Richard, il n'y avait pas d'empreinte de pas. La piste de Callan aussi avait disparu. L'idée qu'elle ait connu le même sort que Ferrand faillit couper les jambes au sourcier. La fureur de l'épée elle-même n'était pas assez puissante pour le protéger de ce chagrin-là.
« Richard, »
dit Nietzsche,
« nous devons filer d'ici. »«
Je suis d'accord, »
lança Kara.
« Moi, je veux les coupables !»
rugit Victor, les jointures de sa main droite devenues blanches tant il serrait fort le manche de son arme.
« Tu peux les traquer, Richard ?»«
J'ai peur que ce ne soit pas une très bonne idée, »
souffla Nietzsche.
« Bonne idée ou non, il n'y a pas l'ombre d'une piste. »
Richard riva ses yeux dans ceux de Nietzsche.
« Tu vas essayer de me convaincre que ce massacre est le fruit de mon imagination ?»
L'ancienne maîtresse de la mort ne releva pas le défi, mais elle ne baissa pas les yeux.
« J'avais promis à sa mère de veiller sur lui, »
dit Victor en regardant Ferrand.
« Que vais-je dire à sa famille à mon retour ? Que raconterai-je aux parents, aux enfants, aux femmes de ces pauvres gars ?»«
Qu'ils ont été victimes du mal, » répondit Richard. Et que tu ne connaîtras pas le repos avant de les avoir vengés, parce que justice sera faite tôt ou tard. »
Sa colère l'abandonnant soudain, chassé par le désespoir, Victor hocha tristement la tête.
« Nous devons les enterrer. »«
Pas question, »
dit Nietzsche.
« Je comprends que vous vouliez prendre soin d'eux, mais ils ne sont plus là en réalité. Ces corps déchiquetés ne comptent pas. « Vos hommes ont rejoint les esprits du bien et nous devons tout faire pour ne pas les suivre. »«
Mais il faut... »«
Non, »
répéta Nietzsche.
« Regardez autour de vous. Une frénésie de sang. Nous ne devons pas subir le même sort que ces malheureux. Pour ça, il faut partir d'ici. »
Sans laisser répondre Victor, Richard posa une question à l'ancienne complice de Jagang.
« Que sais-tu au sujet de cette horreur ?»
« Je t'ai déjà dit que nous devons parler, Richard, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. »«
C'est bien mon avis, »
siffla Kara.
« Il ne faut pas traîner ici. »
Richard leva les yeux vers Ferrand, puis il tourna la tête en direction du charnier. De sa vie, il ne s'était jamais senti si seul. Le désir de voir Callan était tellement fort qu'il en devenait douloureux. Il aurait tout donné pour qu'elle le réconforte, et tout fait pour s'assurer qu'elle était bien vivante et en sécurité.
mais il ne savait plus rien d'elle et c'était une ignoble torture.
« Kara a raison, » dit Nietzsche. Elle prit le bras de Richard. « Nous ne savons pas à qui nous nous frottons, mais dans l'état où tu es, tu ne vaincrais pas un tel ennemi, et nous en sommes tous au même point que toi. Si le ou les coupables se cachent dans cette forêt, ce n'est pas le moment de les affronter. Pour venger nos morts et faire justice, nous devons être vivants, et nous ne le resterons pas longtemps si nous ne partons pas d'ici. »
Du dos de la main, Victor essuya les larmes de chagrin et de rage qui ruisselaient sur ses joues.
« Je n'aime pas le reconnaître, mais Nietzsche parle d'or. »«
Seigneur Hall, » intervint Kara,
« ces tueurs dont nous ignorons tout sont à votre recherche, et je détesterais être encore là quand ils reviendront. »
Richard nota que la mort de Sith ne détonnait plus dans la forêt désormais. Avec son uniforme rouge, elle s'accordait bien à tout ce sang. Pas convaincu qu'il fallait abandonner les recherches, il regarda Kara le front plissé. « Pourquoi penses-tu que ces tueurs me poursuivent ?»
Nietzsche répondit à la place de la mort de Sith. « Richard, je répète que ce n'est ni le lieu ni le moment de discutailler. Nous n'avons plus rien à faire ici car ces hommes n'ont plus besoin de notre aide. »
Et il en allait de même pour Kalan, peut-être. Richard ne pouvait pas se laisser entraîner sur cette pente-là.
Mais par où commencer de chercher sa femme? La pierre qui avait été délogée semblait militer pour le nord, mais rien ne prouvait que les ravisseurs de Kalan étaient vraiment partis dans cette direction.
Ils avaient pu faire simplement un détour pour éviter les hommes de Victor et les soldats qui escortaient le convoi de vivres. Ils voulaient peut-être passer inaperçus, rien de plus, avant de se mettre en route pour leur véritable destination.
Laquelle, justement?
Richard comprit qu'il avait besoin d'aide.
Mais qui pouvait lui être utile dans des circonstances pareilles? Et pour commencer, qui le croirait?
Zed était susceptible de lui faire assez confiance pour ça. Mais rien ne disait que ses pouvoirs lui conféraient des compétences particulières dans un pareil cas de disparition. Et faire un si long chemin pour découvrir que le vieil homme était impuissant n'avait rien d'une idée séduisante.
Qui était susceptible de l'aider et de savoir quelque chose sur la question?
Richard se tourna soudain vers Victor.
« Où puis-je trouver des chevaux? Le plus vite possible, bien sûr. »
Surpris, le forgeron eut besoin de quelques instants de réflexion.
« Alterang est sans doute le meilleur endroit et le plus proche. »
« En route, »
dit Richard en rengainant son épée.
« Et pas question de traîner en chemin. »
Ravi de quitter ce lieu sinistre, Kara orienta son seigneur dans la direction générale de la ville natale de Jagang. Soulagé que Richard se soit décidé à partir, Nietzsche ne demanda même pas à Richard pourquoi il lui fallait des chevaux. Pourtant, elle trouvait cette idée inquiétante. Comme s'ils avaient oublié leur fatigue, les quatre compagnons s'éloignèrent à grands pas de la clairière. Abandonner des morts leur serrait le cœur, mais prendre le temps de les inhumer était bien trop dangereux. La lame ayant réintégré son fourreau, la colère déserta Richard, qui fut aussitôt assailli par le chagrin. Étrangement, toute la forêt semblait pleurer avec lui. Aujourd'hui, le sorcier avait perdu des amis. Et il mourait d'angoisse à l'idée que Kalan soit entre les mains de leurs assassins.
« Pense à la solution, pas au problème !» s'exhorta Richard.
Pour trouver sa femme, il avait besoin d'aide. Et pour dénicher de l'aide, il lui fallait des chevaux. Voilà comment se présentaient les choses. Il restait une bonne demi-journée de marche et il n'avait pas l'intention de perdre une seconde. Il guida ses trois amis dans la forêt. Aucun ne protesta, ni ne se plaignit.